Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, le Liban sous le choc et la communauté internationale mobilisée. L'explosion qui a dévasté Beyrouth a fait 113 morts au moins. Les autres titres, Laurence.
Les très très grosses chaleurs attendues sur la moitié de la France pendant plusieurs jours. Les autoroutes s'organisent. La colère des apiculteurs alors que le gouvernement rouvre la voie à l'utilisation d'un insecticide banni il y a 2 ans. La recherche avance sur le Covid-19. On en sait un peu plus, nous dira Véronique Julia, sur ce qui dérègle la réaction immunitaire qui conduit en réanimation.
Les invités de la matinale, 7h50, la photographe Sabine Weiss pour son exposition à Vannes, et 8h20, le grand entretien consacré au cinéma avec Carole Scotta, productrice, Daniela Elsner, directrice générale d'Unifrance, et le réalisateur Bertrand Bonello. Vos questions au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Une semaine seulement après une courte vague de chaleur, une nouvelle canicule, plus longue, plus difficile pour les organismes, a commencé hier en France. 45 départements sont en vigilance orange aux très fortes chaleurs. La SNCF active aujourd'hui son plan canicule, avec notamment une surveillance renforcée des voies ferrées, car sous la chaleur, les rails comme les câbles d'alimentation des trains peuvent se déformer. Quant à la climatisation, eh bien, si elle ne marche pas, le train ne partira pas. Et pour les automobilistes Faustine Calmel, les réseaux les sociétés d'autoroutes se sont aussi organisées.
760 km d'embouteillage samedi dernier à la mi-journée.
Dur, hein, il faut 5 heures depuis Lyon pour rejoindre Orange.
Et ce week-end devrait furieusement ressembler au précédent, avec des températures à plus de 35 degrés sur une grande partie de la France. Alors à la SANEF, qui gère notamment les autoroutes vers la Normandie et la Côte d'Opale, les équipes sont renforcées dans les postes d'exploitation pour suivre en direct la circulation, et des réductions de vitesse sont à prévoir. Pascal Contremoulin, responsable sécurité routière du groupe.
On a actuellement une baisse de vitesse sur l'Île-de-France. Je pense qu'elle va perdurer pendant toute la période de canicule, mais elle est plus liée à la pollution qu'au pic de chaleur. Et puis, il y a des régulations de vitesse automatiques qu'on a souvent à l'approche des grandes agglomérations pour pouvoir réguler le trafic.
Malgré la régulation, il faut s'attendre à des bouchons. Le réseau Vinci Autoroute a donc vérifié les stocks d'eau. Stéphanie Thibault du Centre d'information trafic à Avignon.
Que ce soit sur les aires, pour pouvoir apporter, répondre à la demande avec des boissons fraîches, et également en cas d'événement survenant sur le réseau, bien sûr, nos équipes seront mobilisées pour pouvoir porter assistance en eau si nécessaire aux automobilistes.
En revanche, sur les aires d'autoroute, pas d'animation ou d'espace brumisateur cette année. Il faut là aussi éviter les rassemblements.
Faustine Calmel.
Ni complaisance ni ingérence, Emmanuel Macron, en visite éclair hier à Beyrouth, n'a pas ménagé sa peine pour montrer la solidarité de la France aux Libanais.
Des Libanais meurtris par l'explosion, dont le dernier bilan est de 149 morts, 5000 blessés et des dizaines de disparus. Le chef de l'État a aussi présenté sa feuille de route pour sauver le Liban, où l'incurie et la corruption sont légendaires, et il a durci le ton contre les dirigeants conspués par la rue. Le système doit changer, le pouvoir libanais doit procéder à des réformes cruciales.
J'espère qu'avec le temps, le peuple libanais trouvera la capacité de faire émerger une offre politique qui correspond à ses aspirations, les réformes qui vont avec. Ça n'est pas à moi de les prescrire. Mais ce dont je viens de vous parler, ce sont des réformes vitales de court terme. S'il n'y a pas cet audit qui est fait sur la Banque centrale, le lancement véritablement avec le Fonds mondial international de ce travail, dans quelques mois, il n'y aura plus d'importation. Dans quelques mois, sans doute, le fioul manquera pour éclairer. La nourriture manquera. Et ça, ce sera la responsabilité de ceux qui ont refusé aujourd'hui de faire ce travail. Il peut encore être fait maintenant. La France aide, elle est là, elle continuera d'aider. Nous avons organisé des conférences internationales, on a levé de l'argent, on continuera de le faire. Mais on ne peut le faire que si les dirigeants libanais prennent leurs responsabilités pour nous permettre de les aider pleinement et d'aider pleinement les Libanaises et les Libanais.
Le chef de l'État hier à Beyrouth. Alors à ce jour, le système bancaire libanais est en quasi-faillite. Le pays négociait depuis mai dernier le sauvetage de son économie avec le Fonds monétaire international, qui a fini par jeter l'éponge. Un FMI exaspéré par l'obstruction systématique des banques libanaises, Fabien Cazot.
La crise économique et financière qui frappe le Liban depuis près d'un an se double d'une crise de confiance des Libanais envers leur système bancaire. Inquiétude sur les dépôts, parfois bloqués au motif que les grosses sommes d'argent doivent faire l'objet de vérifications approfondies. Inquiétude sur les salaires, qui sont parfois crédités en retard sur les comptes en banque. Inquiétude enfin sur les retraits d'argent liquide, même pour des petites sommes. Les distributeurs sont de moins en moins alimentés en billets. Pour autant, les banquiers policiers libanais se refusent à reconnaître un endettement excessif de leurs établissements. Ils ont pourtant souvent renfloué l'État au bord de la ruine par le passé, au point que leurs détracteurs parlent d'un véritable système politico-financier qui dirige le Liban. Tout au plus un simple passif comptable, reconnaissent-ils, qui ne justifierait pas l'intervention du Fonds monétaire international. Le FMI se tient pourtant prêt à dégainer un plan d'aide dont une des premières conditions serait justement la transparence du secteur bancaire.
Transparence, c'est ce pourquoi a également plaidé Emmanuel Macron concernant l'enquête sur l'explosion. Rien ne doit être caché, dit-il, le doute ne doit pas s'installer. Les autorités libanaises ont placé en détention 16 fonctionnaires du port et des douanes. Pour 7 d'entre eux, leurs avoirs ont été gelés et le secret bancaire de leur compte en banque levé. Et puis enfin, à noter, une grande manifestation anti-gouvernementale est prévue demain samedi à Beyrouth. Retour en France, où un homme armé de 34 ans, connu pour des antécédents judiciaires et psychiatriques, a retenu hier en otage pendant plusieurs heures 7 personnes dans une banque du centre-ville du Havre. Après de longues négociations avec les hommes du RAID, l'homme s'est finalement rendu en fin de soirée avec la libération du dernier otage.
Le gouvernement, Laurence, veut permettre d'utiliser un insecticide interdit.
Pour protéger les betteraves à sucre des pucerons verts, vecteurs du virus de la jaunisse. Les exploitants sont démunis face à ces pucerons, alors ils réclamaient depuis plusieurs semaines une dérogation pour utiliser des néonicotinoïdes afin de protéger leurs semences. Or, ils sont interdits depuis septembre 2018. En attendant d'obtenir cette dérogation, les apiculteurs crient au scandale car les abeilles vont directement être impactées par ce produit phytosanitaire. François Veyrette, le directeur de Génération Future, répond à Hélène Chevalier.
Une fois qu'on commence à ouvrir le tiroir caisse des dérogations, c'est pas quand on le referme, puisque par exemple, un certain nombre de dérogations ont été données jusqu'à cette année pour les producteurs de noisettes et de navets. Et ces dérogations se terminaient là, donc il y a fort à parier que ces producteurs-là et d'autres encore reviennent taper à la porte du ministre de l'Agriculture pour se plaindre et demander une égalité de traitement. Et c'est donc qu'on est dans une spirale non plus de progrès, mais une spirale de régression. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller se battre à Bruxelles pour que les autres pays européens arrêtent de donner des dérogations aux producteurs de betteraves dans leur pays, hein, et faire en sorte que les décisions d'interdiction des principaux néonicotinoïdes en Europe soient réellement appliquées sans possibilité de les contourner par des dérogations. Ça aurait été continuer d'avoir un rôle exemplaire et leader en Europe sur cette question. À la place de ça, la France finalement s'est résolue à revenir en arrière et accompagner les pays qui font le choix de privilégier l'agro-industrie à l'environnement et à la biodiversité, dont on nous a dit beaucoup pendant la crise aiguë du Covid qu'elle était vraiment essentielle. Aujourd'hui, on a oublié tout ça pour repartir au business comme d'habitude.
François Veyrette, le directeur de Génération Future. C'est le sujet post-confinement qui monte chez les commerçants, celui des loyers impayés. Une récente décision de justice vient en première instance d'obliger un restaurateur parisien à régler son loyer dû pendant la période de confinement à son bailleur. Or, il plaidait la fermeture administrative en l'absence de chiffre d'affaires. Ce type de procédure pourrait maintenant se multiplier dès la rentrée, car beaucoup de commerçants sont tout simplement dans l'incapacité de payer ses loyers. Alors ils demandent des solutions, Manuel Ruffez.
C'est une bombe à retardement. Thierry Grégoire parle au nom de l'UMI, le syndicat patronal des hôtels, cafés, restaurants. Le loyer représente entre 15 et 30% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires nul pendant le confinement n'est pas prêt de revenir à la normale. Il y aurait une logique à ne pas payer ses loyers, dit-il.
On trouve des solutions intelligentes pour qu'on ait des annulations totales ou partielles des loyers, mais que les bailleurs aussi s'y retrouvent, puisque 72% de nos bailleurs sont souvent des anciens professionnels qui tirent un revenu non négligeable de leur loyer. Les solutions pourraient être annulation totale ou partielle des loyers et que les bailleurs puissent les déduire de leur fiscalité et donc que l'État prenne sa part aussi.
Dans les magasins d'habillement, le loyer, c'est le deuxième poste de dépense après la masse salariale. La Fédération nationale de l'habillement, qui met à la disposition de ses membres un avocat pour négocier avec les bailleurs, prône la médiation. Éric Mertz, son président.
Essayons de trouver un consensus qui nous paraisse équitable. C'est le partage du montant des loyers et puis pour éventuellement payer le loyer, eh bien trouvons un accord jusqu'à la fin de l'année ou sur une période de 12 mois de façon à ne pas venir avoir des dommages collatéraux trop forts.
Sans solution, de nombreux commerces pourraient fermer. Ce n'est pas une menace, précisent les professionnels, c'est une réalité.
Manuel Ruffez, on s'arrête à présent sur les formes graves du coronavirus, celles qui effraient et qui conduisent en réanimation. La recherche progresse.
On sait que la forme grave est déclenchée déclenchée par une sorte d'orage immunitaire incontrôlé. C'est en fait un dérèglement de la réponse immunitaire sur laquelle beaucoup d'équipes de chercheurs tentent de trouver la parade. Une nouvelle étude sur le sujet vient d'être publiée dans la prestigieuse revue Cell, le fruit d'une collaboration entre l'Institut anticancer Gustave Roussy et la PHP. Cette étude vient d'identifier, Véronique Julia, le rôle central joué par une protéine en particulier.
L'étude s'appuie sur l'analyse sanguine de 158 patients admis à l'hôpital pour suspicion de Covid. On a comparé tous les cas et un point commun est apparu pour tous les patients ayant des formes graves. On a constaté des anomalies sur leurs globules blancs, tendant à prouver que ces globules perdent de leur efficacité. On a observé aussi que les patients atteints de façon sévère produisaient beaucoup plus de calprotectine que la normale. C'est une protéine pro-inflammatoire qui semble donc jouer un rôle déterminant dans l'aggravation de ces cas. Aymeric Sylvain est chercheur en immunologie à Gustave Roussy.
On retrouve 100 à 1000 fois plus de calprotectine chez les gens qui font des formes sévères par rapport à des gens normaux. Jusqu'à 1000 fois plus que la normale, ce qui est énorme. Plus c'est grave et plus on en produit.
Partant de ce constat, les auteurs de l'étude considèrent qu'un dosage de cette protéine chez les patients arrivant à l'hôpital, associé à l'analyse de leurs globules blancs, pourrait permettre de prédire s'ils sont susceptibles ou pas de faire des formes graves. C'est ce que fait depuis peu l'hôpital Cochin à Paris, le Taquinismod, un médicament déjà expérimenté dans le cancer de la prostate et qui bloque la production de cette protéine pourrait quant à lui constituer une piste thérapeutique. Mais les chercheurs estiment assez probable que dans l'orage inflammatoire qui caractérise les formes graves, plusieurs molécules soient en jeu et sans doute pas seulement celles dont on parle. La solution serait donc vraisemblablement, d'après eux, dans une combinaison de plusieurs médicaments.
Véronique Julia, le sport avec l'Olympique Lyonnais à la recherche de l'exploit ce soir. 8e de finale retour de la Ligue des Champions sur le terrain de la Juventus Turin en Italie. Vainqueur 1-0 en match aller, les Lyonnais peuvent se qualifier pour les quarts comme le PSG. Le rugby, lui, se déconfine lentement. Reprise de la compétition seulement en septembre. Alors en attendant, c'est la reprise des entraînements et notamment du 15 de France féminin de rugby en stage de préparation pour les futures échéances de l'automne. Reportage de Vincent Pellegrini au Centre National de Rugby à Marcoussis.
Ambiance rentrée des classes sous le chaud soleil de Marcoussi. Les 36 joueuses sélectionnées ont retrouvé des terrains d'entraînement 5 mois après s'être quittées au lendemain d'un tournoi inachevé. La capitaine Gaëlle Hermé et la deuxième ligne Safine Diaye savourent.
Là, c'est un réel plaisir. On s'était déjà retrouvé un petit peu en juillet par petits groupes, mais là, c'est tout le collectif qui se regroupe. Donc, on est vraiment contente. Le plaisir est au rendez-vous. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose.
On rigole beaucoup pendant les moments off. Ça fait vraiment du bien. On attendait ce moment où on se retrouvait vraiment tout le groupe depuis longtemps. Ça nous avait vraiment manqué.
Avant de reprendre son métier d'éducatrice auprès d'enfants en difficulté, Safine Diaye a passé le confinement en famille dans le Tarn. L'occasion de se régénérer après 10 ans de carrière internationale.
J'ai complètement changé mon mode de vie. C'est-à-dire que j'ai arrêté de courir. J'ai profité des instants vraiment simples de la vie et ça m'a fait vraiment du bien. C'était du temps avec la famille. Je pense que quand on est sportif de haut niveau, c'est des petits moments qu'on met de côté pour l'après-carrière. Et là, de le retrouver, ça a fait vraiment une bouffée d'air et je vois que finalement, là, je retrouve les terrains avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de fraîcheur qu'auparavant.
Le championnat de France doit reprendre début septembre. Fin octobre ont été programmés les 2 derniers matchs du tournoi qui n'avaient pas pu se jouer au mois de mars face à l'Écosse et d'Irlande.
Vincent Pellegrini.
Merci Laurence Thomas.